tempête. Bien entendu, on ne peut pas parler d'Écosse sans parler de la météo écossaise. La météo écossaise, ça fâche pas mal les Français. Et c'est vrai qu'elle nous donne de sacrées leçons d'humilité, cette météo écossaise. Ma première fois en Écosse, pour ça, a été mémorable. Il y a déjà pas mal d'années maintenant. On était partis donc, tous les deux avec Matt, en mode Matt, comme je dis. C'est-à-dire que c'était, c'était du simple, quoi. On dormait dans la voiture pour plusieurs semaines. Et cette première année, ma première fois en Écosse, on a eu droit à un ouragan, un vrai ouragan. Alors pas le cœur de l'ouragan, mais la queue de l'ouragan. Et on l'a senti bien passer quand même. On avait de la pluie tous les jours. On a eu, je crois, 3 éclaircies avec des photos sublimes sur les 3 éclaircies. Mais sinon, c'était de la pluie tout le temps. Et la pluie tombait la plupart du temps à l'horizontale. On passait nos journées dehors à se faire mouiller. Et le soir, avant de se coucher dans nos sacs de couchage humides, on enlevait nos vêtements trempés. C'est la technique de matin, super technique, infaillible. On mettait les vêtements trempés dans un sac plastique, on faisait un nœud sur le sac, on mettait des vêtements secs, on dormait comme on pouvait sous le martèlement des gouttes sur le toit de la voiture, et puis le lendemain matin, après une nuit très reposante, on ouvrait les sacs plastiques, on mettait les vêtements trempés et on repartait au front avec le sourire. Surtout pour Matt.
Mon père était accompagnateur montagnard avant moi et en Grande-Bretagne, c'est comme ça que ça se fait.
Vous comprenez mieux pourquoi dans le mythe de création dont je vous ai raconté le début tout à l'heure, la Kaliak, la vieille déesse qui, selon la légende, a créé l'Écosse, est arrivée sur un nuage de tempête. Ça fait des années maintenant que nous allons en Écosse ensemble, à toutes les saisons, et je n'ai jamais eu un séjour avec autant de pluie. Mais on a toujours de la pluie, quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr. Elle s'invite toujours. Et la pluie, là-haut, elle est obstinée. C'est comme la terre, elle aura toujours le dernier mot.
Et en même temps, c'est la pluie qui donne cette incroyable beauté au paysage. Sans elle, on n'aurait pas ces lumières changeantes, on n'aurait pas ces tourbières, on n'aurait pas ces loques, ces lumières qu'on a l'impression de voir venir d'un autre monde, les arcs-en-ciel, en veux-tu, voilà. Ça fait partie de son âme, on ne peut pas vouloir l'Écosse avec du ciel bleu. D'ailleurs, les gens qui viennent avec nous, finalement, ils sont plutôt déçus quand il y a du ciel bleu. Et malheureusement, très exceptionnellement, ça arrive. La pluie, le vent, les conditions font partie de son âme, font partie de sa chair, partie de qui est l'Écosse, en fin de compte.
Moi, lors de ma première fois en Écosse, vous avez compris, j'en ris maintenant, mais j'ai vraiment, en toute humilité, je le dis. Pourtant, on est quand même habitué à des conditions rigoureuses sur le Vercors. J'ai vraiment beaucoup souffert. Ça avait un vrai côté initiatique. Et ce mot initiatique, c'est amusant parce qu'il revient toujours à chaque fois qu'on emmène des personnes en Écosse, des photographes en Écosse. On en a toujours quelques-uns qui, à la fin, disent « Oh, c'était initiatique. » et je pense que vraiment l'Écosse a ce côté-là. Il y a très souvent un avant et un après. Ça, pour moi, ça a été le cas, en tout cas. Et bien sûr, ça vient de la rudesse, du climat, mais ça vient aussi de ce mélange de rudesse et en même temps d'une beauté inouïe, d'une beauté miraculeuse qui fait que malgré la météo qui peut être vraiment difficile, on va rester des heures immobile, les yeux rivés, à regarder défiler les averses. Vraiment, je parlais de quelque chose d'hypnotique tout à l'heure, c'est vraiment l'effet qu'elle nous fait. Et on se retrouve comme ensorcelé. Et c'est vraiment cet effet-là que fait l'Écosse. C'est une terre enchantée au sens fort du mot, c'est-à-dire qu'elle nous emmène dans un vrai enchantement dont on a beaucoup de mal à sortir.
Alors, au niveau photographie, ce n'est pas toujours facile. On n'est pas aussi bien équipé que les biches pour affronter la pluie. Elle se secoue, elle repart, comme si de rien n'était. Nous, il faut apprendre à gérer avec. Il faut composer avec les éléments. En fait, on se retrouve à faire, voilà, se mettre dos au vent pour protéger le matériel de la pluie qui est soufflée sur l'appareil photo. Ou alors, il y a une lumière qui change au loin et d'un coup, il faut changer immédiatement d'objectif. On a des gouttes sur les filtres. On essuie, ça laisse des traces. Tout semble plus compliqué. C'est vraiment un art d'adaptation que de faire de la photo en Écosse. Il nous est même arrivé de nous mettre à deux pour faire des photos, enfin pour qu'une personne fasse une photo. Il y en a un qui tient la cape de pluie par-dessus tout le matériel pendant que l'autre essaye de faire ses réglages. Parapluie, c'est pas la peine. Il tiendra pas deux secondes avec le vent.
Ouais, donc voilà, Matt vous le dit, c'est compliqué de faire de la photo en Écosse. Et puis parfois, il faut simplement savoir lâcher prise. Ça fait encore partie de cette espèce de sagesse en fait que cette terre et que cette météo nous transmettent. Ne pas chercher à tout prix à faire l'image qu'on avait prévue, parce qu'on ne la fera pas, elle ne nous laissera pas la faire. Ne pas résister, en fait, la terre, le vent, les averses sont toujours plus forts que nous. Alors, il y a des fois, et il y en a là parmi vous ce soir qui sont venus avec nous en Écosse et qui savent de quoi je parle, il y a eu des fois où il a fallu laisser tomber, vraiment déposer les armes et ranger le boîtier et puis simplement savourer le wild, savourer la brutalité et la beauté inouïe des éléments. Et puis parfois on peut quand même faire de la photo, mais il faut accepter de sortir du cadre. Et c'est une terre, vraiment, l'Écosse, quand on accepte de faire un pas de côté et de ne pas être fixé sur nos objectifs. Vraiment, là, je parle vraiment au niveau photographie. C'est vraiment une terre qui peut nous inciter à beaucoup plus de créativité, à aller chercher... par exemple, il pleut, il y a plein de gouttes. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il y a du vent, je peux pas... Il y a tout qui bouge. Eh bien, je vais bouger avec le vent. Et cette photo-là, elle a été faite dans des conditions assez difficiles. Ça ne se voit pas d'ailleurs, ça a un côté très doux où justement on accepte de sortir du cadre. Et je vais maintenant vous lire encore un petit extrait d'un de mes journaux poétiques qui parle de ça justement. Fairy drops. Les gouttes des fées. La pluie, encore, toujours. C'est bientôt la fin de notre périple et depuis un moment déjà, nous ne prenons plus les prévisions météo. La pluie est là, notre compagne de chaque instant, attachée, attachante, agaçante aussi parfois. Ce matin-là, nous sommes venus photographier une succession de cascades et de vasques que l'on nomme les Fairy Pools, les bassins des fées, un nom enchanteur et peut-être trompeur. Car sous l'averse et le ciel de plomb, avec le vent et la terre boueuse, nous avons un peu de mal à imaginer une fée surgissant de la lande pour venir s'asseoir au bord de l'eau. L'ambiance est forte pourtant, le torrent qui dévale la pente ronronne dans la vallée. Il y a cette odeur minérale qui pique un peu le nez et les sommets au loin, mystérieusement nimbés de brume. Je n'ai pas envie de faire de photos. Je marche au milieu du torrent en ramassant des galets ronds et noirs que je serre dans mes mains. Je laisse l'eau transparente balayer mes bottes de pluie. Juste être là, avec ou sans les fées. Les minutes glissent, les heures passent. Une accalmie soudain, la pluie cesse, un signe peut-être, et je me dis que c'est le moment de sortir l'appareil, le trépied. Je cherche un cadrage, les réglages, mets le retardateur et l'averse revient. En quelques secondes, le filtre gris est couvert de gouttes. Je renonce à ma photo. Je vois un autre photographe au loin. Il se bagarre avec un sac plastique dans le vent. Où est mon sac à moi? Où sont donc mes chiffons divers et variés pour nettoyer le matériel? Lâcher prise. Faire avec la pluie et le vent et ne pas aller contre eux. C'est une évidence soudain. Et je laisse les gouttes couler doucement sur le filtre. C'est beau le monde à travers les gouttes. Plus poétique. Un peu mystérieux. Silence. Une fée passe. L'autre photographe a rangé son matériel et rentre en passant devant moi. regard interloqué devant cette folle qui ruisselle sous la pluie et laisse son appareil se couvrir de gouttes. Je lui fais un grand sourire et je reste encore un peu avec les fées.
Alors cette météo, toujours incertaine, combinée avec la miraculeuse beauté des paysages, nous donne l'impression de marcher parfois dans un autre monde. Un monde liminal qui n'est plus tout à fait celui que nous connaissons et qui nous amène vers un ailleurs mystérieux. Alors pour cette dernière partie de notre conférence, je vous invite à écarter les rideaux magiques et de franchir ce portail, cette porte vers l'autre monde, le monde derrière les mondes. Alors en arrivant en Écosse, on a l'impression que tout est différent, les couleurs sont différentes, la sensation de la terre sous les pieds est différente. C'est comme si on n'était plus vraiment dans le monde réel. On a les nuages qui bougent dans le ciel, le vent qui nous bouscule si bien qu'on n'est pas très stable. Ça bouge sous les pieds, dans les tourbières. Si vous rajoutez à ça les brumes diaphanes, les trouées de lumière et les arcs-en-ciel, on a vraiment une sensation de marcher dans un monde onirique.
Alors ce monde derrière le monde, dans lequel on peut très rapidement se retrouver en Écosse, vous l'avez compris, les anciens écossais l'appelaient le Shi. Ça s'écrit S-I-D-H, hein, comme tous les mots de gaélique, ça n'a rien à voir la prononciation avec l'écriture, mais c'est le Shi. C'est un point de vue de française. Donc le Shi, c'est l'autre monde peuplé de fées, peuplé d'anciens dieux. C'est là où, quand les morts passent de l'autre côté, c'est là où ils se rendent. C'est aussi de là que viennent les rêves pour les anciens. On le retrouve dans beaucoup de contes. Et c'est de ce chi que l'âme du monde peut sortir et venir parler à ceux qui savent écouter. Et c'est vrai que quand on voit, donc ça c'est sur l'île de Skye, cette image qui a été prise là, quand on voit ces ambiances, on comprend pourquoi ça a inspiré tous ces récits sur des autres mondes, sur des êtres fantastiques. On dit, je ne sais pas si c'est une rumeur en tout cas qui court sur l'île de Skye, que ces paysages-là auraient inspiré Tolkien pour l'écriture du Seigneur des Anneaux. Et on ne serait pas surpris, c'est vrai, de voir surgir un hobbit ou pire encore un orque derrière l'aiguille noire. La première fois que je suis allée là, je me sentais pas bien du tout. C'était avec Matt et je me sentais oppressée par cette ambiance, vraiment digne des pires moments du Seigneur des Anneaux. Alors, quand nous avons un groupe de stagiaires qui vient nous retrouver en Écosse, je commence toujours, et il y en a qui peuvent le confirmer, par dire que la Terre, ici, elle parle. Elle parle directement à l'âme. C'est d'elle, c'est de la Terre que vient la formidable inspiration qu'on peut trouver quand on est en Écosse, que ce soit au niveau de la photo ou pour moi, au niveau de mes textes. Quand j'écris là-haut, j'ai toujours l'impression que mes mots ne viennent pas de moi, mais qu'ils sont en quelque sorte dictés par les lieux. Et les conteurs écossais, enfin tous les conteurs d'ailleurs de Grande-Bretagne évoquent ça, ils disent que ce ne sont pas eux qui ont inventé les histoires, que c'est la terre qui les a soufflées et que les hommes ne font que passer, en fait. Et ils ne font que... En fait, ils disent qu'à travers leurs histoires, c'est simplement la terre qui se parle à elle-même. J'adore cette image-là. Et c'est vrai que l'Écosse est une terre inspirante, c'est-à-dire qu'elle vient vraiment souffler en nous. et qu'on peut faire l'expérience d'une très très grande et très belle créativité, mais une créativité, donc là faut savoir laisser son ego de côté et reconnaître, bah non, en fait ça vient pas de moi, je me suis juste laissée traverser par l'Écosse et je trouve ça très beau. En Écosse, vous l'avez certainement compris, la terre est sacrée pour ceux qui l'habitent. Chaque montagne, chaque vallée, chaque source porte un nom. Et ces noms, c'est pas n'importe quel nom. Ces noms, c'est des portes ouvertes vers le monde imaginaire, vers des mystères vivants. Et c'est très important le nom qu'on donne à un lieu. Le nom qu'on donne à une montagne, cela va orienter notre manière de la voir et de la connaître. Donc vous voyez cette photo, je vous invite à la regarder et à vous poser la question, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez là ? Et comment cette montagne a envie de s'appeler pour vous ? Juste gardez-le pour vous. Comment cette montagne a envie de s'appeler ? Parce que nommer, ça peut être une manière de reconnaître l'âme des choses. Et quand on reconnaît l'âme des choses, elle commence à nous répondre. C'est pour ça que je dis que la terre parle en Écosse. Alors nous, avec Matt, je peux le dire là, j'aime bien essayer d'abord que votre imagination puisse prendre son élan. Et tout ce qu'on voit est juste, parce que c'est une conversation intime avec la terre, une conversation unique. Et nous, avec Matt, on voit une déesse couchée ici. On voit le visage, le nez pointu, le menton, on voit la poitrine et le reste du corps allongé. Elle a des longs cheveux qui sont étalés derrière elle. Donc c'est une déesse montagne de l'île de... Ça c'est sur Harrison Lewis, que nous appelons l'île des déesses parce qu'en fait, on en voit partout. on en voit partout et puis beaucoup portent des noms justement qui nous incitent à voir des femmes couchées. Je vous laisse les rencontrer, ces pierres. Et peut-être je vous laisse aussi réfléchir au nom que vous pourriez donner à ces rochers dans cette ambiance-là. Celle qui est le plus à gauche, les Écossais l'appellent « the Old Man of Storr ». C'est un des rochers les plus connus, un des lieux les plus connus d'Écosse, le vieil homme du Storr. Et c'est le gardien du massif montagneux qui est derrière, qu'on ne voit pas sur la photo, donc il s'appelle le Storr. Et ce mot Storr, c'est un mot très ancien qui signifie robuste, puissant. Et vous voyez comme les mots, en fait, révèlent, je trouve, vraiment l'âme de ces paysages. Et on ne voit pas des roches de la même manière si on les appelle le vieil homme du Storr, ou si on les appelle roche-herbe. Parce que roche-herbe, figurez-vous que c'est le nom d'un magnifique sommet du Vercors, j'ai honte de le dire. Mais c'est triste, le jour où j'ai montré à Matt et j'ai dit oh, « c'est beau, qu'est-ce que c'est ?» Il me dit « roche-herbe ». Je dis « non, tu te fous de moi ?»« Bah non, c'est roche-herbe ». Et vraiment, c'est quelque chose moi qui m'attriste beaucoup sur ce Vercors à qui on a donné notre cœur, parce qu'on l'aime, notre Vercors. C'est quand même que ça manque de poésie dans les mots. Et ce n'est pas ces tremplins vers le monde imaginaire qu'on a partout en Écosse. Parce que vraiment, si une montagne, vous l'appelez « the old man of Storr », elle va commencer à vous parler. Si vous l'appelez « roche-herbe », elle n'aura rien à vous dire. Elle va rester muette. Alors, en Écosse, on trouve beaucoup de montagnes qui s'appellent la Cailliac. Donc la Cailliac, on le traduit par vieille femme, mais c'est bien plus riche que ça, c'est la vieille voilée aussi. Et chaque montagne a bien entendu une légende associée à son nom. On a toujours sur Harrison Lewis, on a la Cailliac Namo, alors dis-le.
Cailliac Namontag.
Bon, j'ai honte après. Et ça, c'est la vieille femme de la lande, la vieille femme de la lande. Et elle est, comment dire, c'est la gardienne du cercle de pierre de Calaniche. Donc, il y a vraiment quelque chose de très sacré là-dedans. Les habitants de l'île l'appellent aussi « the sleeping beauty », la belle endormie. C'est trop beau. Alors, ce petit sommet sur l'île de Skye, on ne connaît pas son nom, mais il pourrait bien être nommé Kaliak, lui aussi. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le visage qui sort de la lande, en fait. C'est beau à voir en image. Je peux vous dire que le marcher là et voir ça sortir, ça nous a scotché. Et on n'était pas seul. On n'était pas seul à la voir et à être scotché.
On était même accompagné par deux personnes dans cette salle quand on a vu ce visage.
Il y a une superbe histoire derrière, mais on n'aura pas le temps de vous la raconter ce soir. Mais je peux vous dire que c'est une histoire de vent et de tempête qui est liée à cette kayak-là. Alors, voilà, pour revenir sur cette idée des noms qui sont tellement importants et qui sont tellement présents en Écosse, et c'est vrai que si, voilà, il y en a bien sûr parmi vous qui seront inspirés pour y aller. Après, faites attention aux noms, cherchez, parce que ils vont vous aider à rencontrer la Terre. Et c'est vrai que les noms que les hommes donnent aux lieux et aux paysages qui les entourent, ils traduisent vraiment la relation qu'ils ont tissée. Ils ont tissé depuis des siècles et même depuis parfois des milliers d'années avec ces lieux. Une toute petite digression, c'est la même chose avec les étoiles. Nos ancêtres, ils appelaient les étoiles Altaïr, l'aigle en vol, Bellatrix, la guerrière, Sirius, l'ardente, la brûlante. Sirius, peut-être que vous connaissez, là, dans la constellation du chien, c'est l'étoile la plus brillante de nos nuits d'hiver. Et le ciel, quand nos ancêtres nommaient ainsi les étoiles, était rempli de merveilles. Aujourd'hui, on se met à donner d'autres noms aux étoiles. On se met à les appeler HR5171. Et je ne plaisante pas, c'est vraiment le nom d'une étoile récemment identifiée par les scientifiques. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle a dû perdre son éclat. Aussitôt nommée, elle a dû perdre son éclat. C'est comme si soudain le ciel se taisait quand on ne nomme plus la Terre avec des mots qui nous unissent à elle. Et c'est vraiment la même chose avec les montagnes, avec les sources, avec les rivières. Tout à l'heure, Mathilde vous a parlé du berger. C'est ça, comment tu le disais, Glenn?
Birkelet of Moor. C'est le grand berger de Glenetiv.
Une montagne qui s'appelle le grand berger. On voit des choses. Voilà, il y a des choses qui se passent. Et la terre nous parle. Voilà, donc en Écosse, il suffit de dire les noms des montagnes. Et certains le font quand ils viennent avec nous là-bas. On les invite à le faire. Voilà, juste à rester devant un rocher, devant une montagne, à dire son nom. Et c'est une manière de sentir comme elles sont vivantes. Et en Écosse, la terre, elle est vraiment plus bavarde qu'ailleurs. Elle est plus bavarde parce que pendant des milliers d'années, il y a eu des êtres humains pour lui offrir des beaux noms.
Callanish. Certains l'appellent Stonehenge du Nord. Bon, moi j'appellerais Stonehenge Callanish du Sud. Alors ces cercles de pierre, c'est peut-être le cercle de pierre le plus connu d'Écosse, ont été érigés à plus de 5000 ans. Et c'est vrai qu'on en trouve un peu partout en Écosse. Ça nous rappelle la relation que peuvent avoir les Écossais avec la Terre. Surtout dans les Highlands. Il n'y a pas ce côté, comment dire, il n'y a pas un côté sacré d'un côté, un côté spirituel d'un côté, le monde physique, la Terre de l'autre, tout est mêlé. Le sacré se trouve dans la terre. Les anciens Highlanders, ils donnaient des bénédictions sur tout. Des bénédictions sur l'eau, les bénédictions sur leurs vaches, les bénédictions sur la pleine lune, des bénédictions sur les sources. Tout est lié. Des bénédictions sur le feu, bien sûr. On sent que cette spiritualité, il y a vraiment un lien à la terre. Un lien très fort. La source, d'ailleurs, en gaélique, s'appelle Mahar Ushke, ce que je trouve absolument merveilleux. C'est la mer de l'eau. On sent ce lien, même à travers les mots. Même le mois d'octobre, je peux le glisser là. Le mois d'octobre, c'est quand même énorme. Nous, c'est octobre, c'est le 10e mois. Enfin, c'est le 8e mois, d'ailleurs. Bon, on n'entrera pas dans le comment et le pourquoi, mais c'est le 8e mois. En Écosse, c'est Antavr, le mois du cerf. En tout cas, ce lien avec la terre est tellement fort qu'on en trouve des vestiges de partout de cette spiritualité.
Juste dire quelque chose, parce que le mot spiritualité parfois peut être mal perçu. On ne parle pas de religion ici. Bien sûr, l'Écosse a été, comme toutes les terres celtes, pendant longtemps une terre païenne, et puis après est devenue une terre chrétienne. Et tout en étant toujours une terre chrétienne, c'est resté une terre imbibée de spiritualité, au sens où les habitants, les personnes qui vivaient, voyaient l'esprit dans la terre. Voilà, c'est vraiment au sens premier du terme. Et ce n'est pas des histoires de religion.
Merci, darling. Comme vous l'aurez compris, l'Écosse, c'est quand même une terre imbibée d'eau. Vous en avez de partout. Ça arrive du ciel, ça arrive de la mer. Il y a les lochens, ça remonte même de la tourbière. Alors même quand vous êtes dans la terre, ça remonte par les pieds. Et elle tient une place essentielle dans la vie physique des Highlands. Vous ne pouvez pas y échapper. Ça tient aussi, c'est aussi tissé dans l'imaginaire et dans les mythes, les contes écossais. On voit toujours l'eau comme un point d'accès, comme une porte vers le monde imaginaire, vers le monde de l'âme, vers le chi, l'autre monde. La moindre petite flaque peut être une porte vers ce monde invisible. Et dans un monde où l'eau tient une telle place, évidemment, des créatures marines ont une place très importante dans l'imaginaire et dans les mythes des Highlands.
Oui, je vous ai tout à l'heure brièvement parlé du saumon. On pourrait faire une conférence sur le saumon en Écosse. Voilà. C'est pas compliqué. On aurait matière pour en parler pendant des heures. Il y a tellement d'histoires et c'est tellement... ancré, en fait, il y a un tel amour, en fait, pour ce... Enfin, un tel amour. Non. Voilà, je ne pars pas là-dedans. OK.
Moi, je me demande juste si notre ami qui aime le saumon, il a réussi à goûter le saumon de la sagesse. Et si ça l'a rendu sage.
En tout cas, voilà, il y a ce saumon d'Écosse. Il y a aussi un animal qui est très, très important pour les Écossais et surtout pour les habitants des îles. Et c'est le phoque. Le phoque, comme le saumon, comme le cerf d'ailleurs, est un animal sacré là-haut. Il y avait beaucoup d'interdits chez les anciens et de tabous autour de la chasse au phoque. On ne devait le tuer qu'en cas de nécessité. Et il y a beaucoup de contes, beaucoup d'histoires qu'on adore raconter avec Matt, où le phoque est le personnage principal. Pas vraiment le phoque, mais plutôt les selkies. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot un peu barbare de selkie. Et dans les légendes de là-haut, les selkies, ce sont des êtres métamorphes qui sont mi-phoque, mi-humain, et qui peuvent prendre une forme ou une autre, et qui sont dotés d'une profonde sagesse. Voilà, la sagesse qui est venue du fond des océans. Et bien sûr, on adore les histoires de selkies et on aime beaucoup traduire dans nos images ce côté-là, justement, ce côté un peu féerique, ce côté être de l'autre monde des phoques et de les entourer de petites paillettes comme sur cette photo-là. Regardez comme il est tout mignon avec ses petites moustaches. Les selkies sortent parfois de l'eau, certaines nuits de pleine lune ou alors pour le solstice d'été. Et là, je n'invente rien, c'est vraiment toutes les histoires de la terre d'Écosse qu'on a apprises au fil des années. Et quand ils sortent de l'eau, ils enlèvent leur peau et ils la déposent sur des rochers. Et ça, c'est une vraie nuit à Selkie pour nous, une vraie nuit de l'autre monde, avec la pleine lune et puis ces lueurs un petit peu mystérieuses. Et on ne serait pas surpris de voir surgir... des selkies et les voir ôter leur peau.
Et quand les selkies sont sortis de l'eau et ont laissé glisser leur peau de phoque sur la plage, ils se mettent à danser nus toute la nuit. J'ai dit nus. Ils chantent vers les étoiles, des chants très anciens, des chants doux, des chants oubliés des humains, enfin de la plupart des humains. Il y a quelques rares chanteurs ou chanteuses qui chantent encore en gaélique des chansons de Selkie. Mais je n'en parlerai pas plus, sinon Sandrine va être jalouse. Quand on a la chance d'entendre le chant d'un Selkie, on est remué au plus profond de son âme. Car les Selkies, dans toutes les histoires, sont les gardiens de nos âmes. Ils sont les gardiens de tout ce qui est de plus beau, tout ce qui est de plus libre et surtout tout ce qui est de plus sauvage en nous. Un Selkie ne peut jamais rester loin de son monde sauvage de l'eau. Il doit toujours y retourner, sinon il dépérit. Et les lieux où ils vivent sont des lieux, des endroits aux frontières du réel. Et c'est quelque chose qu'on aime traduire dans nos images. On en parlait avec les cerfs tout à l'heure, ces images volontairement floutées. Non, le but est de traduire ce monde, limite imaginaire. Est-ce qu'on est dans le conte? Est-ce qu'on est dans du réel? Est-ce qu'on a un pas dans le monde des Selkies? Ces images ressemblent à des tableaux et à des peintures. Et c'est vrai qu'on a tout à fait l'impression de marcher dans des tableaux quand on est dans ces paysages. Ici, c'est une immense plage où elle se perd dans l'eau, qui se perd dans le ciel, qui se perd encore dans les nuages. Et on n'arrive pas à trouver tout à fait les frontières.
Sur Harris and Lewis, dont on vous a déjà parlé tout à l'heure, nous avons nos plages à Selkie, où nous aimons situer les histoires que nous racontons. Et celle-ci fait partie de nos plages à Selkie, avec ses dunes sauvages balayées par les vents, avec le sable blanc, mais le blanc du sable, c'est comme un mirage. Ça fait irréel. On ne croit pas que c'est possible tant qu'on n'y est pas allé. Et puis cette mer, ce bleu turquoise comme aux Caraïbes, qui fait tout aussi irréel, qui n'a pas la température des mers des Caraïbes en revanche. Voilà une vraie plage à Selkie et on reste des heures en fait là. On reste des heures et on imagine et on rêve et on se laisse partir.
Une autre petite plage à Selkie. Un petit écrin secret au bout d'une route secrète sur une île dont le nom restera secret. Sandrine, elle est entrée dans l'eau glacée ce jour-là pour chanter, pour appeler les cerfs. Les Selkies, peut-être des cerfs aussi, pour appeler les Selkies. Une eau à 7 degrés tout de même. Elle a chanté, elle les a appelés. Mais nous ne pouvons hélas pas vous en dire plus, car nous avons promis de garder secret tout ce qui s'est passé ensuite.
Alors voilà, nous arrivons bientôt à la fin de ce voyage en Écosse. On espère que l'Écosse est venue vous parler ce soir, qu'elle est venue vous remuer un petit peu l'âme, à vous aussi. Elle sait vraiment parler à notre âme, à cette partie secrète au creux de nous, qui est aussi ancienne que le monde, qui est aussi sauvage que le cœur des cerfs, qui est aussi tendre et douce que le regard des phoques, et aussi libre que le vent qui galope sur la mer. C'était vraiment ce qu'on voulait vous faire passer ce soir, cette âme de l'Écosse, le chant farouche et sublime des Highlands. Nous allons finir, je vais finir par un petit texte, un dernier qui est un texte important pour moi parce que je l'ai écrit au printemps dernier, en retrouvant l'Écosse après plusieurs années sans, à cause des restrictions dues au Covid. Et ça a été encore plus difficile de nous arracher de là après. Et voilà, c'est un texte qui est pour moi une invocation, une prière ou une lettre d'amour. Je suis longue à revenir en France. J'ai encore un pied sur les hautes terres d'Écosse, avalé par la tourbière revêche. C'est comme si, à chaque nouveau voyage, elle gardait un peu plus de moi. Je m'en retourne toujours plus incomplète, amputée. Elle a cette façon, bien à elle, d'aspirer les jambes des rêveurs qui passent sur son grand corps spongieux. Elle les retient dans un champ fait de vent et de susurrements étranges. Plus d'une botte est restée là, au bout du monde, remplie d'eau et de tourbe. Mon cœur sauvage et mouillé, elle le garde aussi, férocement, conservé intact par ses fluides acides. On peut lui faire confiance pour ça, elle ne laisse rien se détériorer. Il y a des humains vieux de 2000 ans qui reposent en elle, frais comme des belles au bois dormant. Oui, je sais qu'à mon retour, je retrouverai mon cœur comme je l'ai laissé. J'aime la sévérité de la lande, l'infinie variété de ses textures, ses secrets enfouis, ses leçons d'humilité. Si tu la traverses comme un touriste, elle ne te donnera rien que le hurlement du vent et une paire de chaussures trempées. Mais si tu prends le temps, si tu lui fais l'offrande de tes yeux attentifs, si tu te laisses descendre dans ses mystères, elle chantera pour toi. Elle te montrera des roches vivantes, des ruisseaux comme des veines, des danses sensuelles d'herbes dorées et des mousses noires d'ébène douces comme des joues où tu pourras appuyer la tienne. Elle te racontera l'histoire de chaque pierre et chacune deviendra une amie pour toi. Je suis restée des heures avec celle-ci. J'ai regardé avec elle le ciel bleu devenir sombre et la tempête rassembler ses légions de nuages. J'étais là lorsque le soleil est mort. J'ai entendu son dernier soupir de noyé. J'ai senti le frisson dans les longs doigts de serpent de la bruyère, tandis qu'il se serrait un peu plus autour de la pierre encore chaude. Je me suis serrée, moi aussi, tout contre la terre, à l'abri des premières griffes de pluie. La lande a chanté à nouveau, chanté en m'enveloppant de ses mains osseuses et sinueuses. Oui, si tu restes assez longtemps avec elle, cela arrivera. Elle te couvrira comme les pierres, montera lentement sur ton cœur. Elle rampera jusqu'à ta gorge, versera sa voix dans la tienne. N'aie pas peur de cette voix-là, ancienne et sauvage. N'aie pas peur de rester. J'ai eu peur de la solitude inhumaine et du vent, du cri des pierres et que le soleil ne revienne jamais. Je me suis levée pour rentrer, tirant sur les fils invisibles que la tourbière avait tissés autour de moi. Je les ai entendus se déchirer. Et aussi cette partie de moi qu'elle n'a pas voulu laisser et qu'elle conserve en tribu jusqu'à ce que je revienne et que je reste pour de bon. Un nouveau morceau qu'elle garde avec ceux des autres années, au creux sombre de ses eaux aigres, qu'elle garde avec les glands des chênes qui poussaient là il y a 3000 ans, avec les ossements des biches et les becs des corbeaux, avec les humains qu'on n'a jamais revus, et aussi très certainement avec quelques paires de bottes toujours en très bon état.